180 000, ça, c'est des, ça date du 22 janvier, là. C'est le, ce que j'ai de plus récent. Hein. 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 du côté ukrainien, 30 000 civils tués. Wow! Bonne nouvelle, hein? On n'habite pas en Ukraine. On a un voisin, une voisine, une famille d'Ukrainiens près de chez nous. Et à chaque fois qu'on les voit, c'est, on est touché, hein? Et même au Québec, hein? Vous habitez à Laval, Sainte-Rose? Un chauffeur d'autobus qui rentre dans une garderie, tu es allé mener ta petite fille, ton petit garçon, t'as amené et puis tu le retrouves mort. Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est pas les mauvaises nouvelles qui manquent. Est-ce que ça va aller en s'améliorant? Les pronostics sont pas là. Hein? Les prédictions, là, catastrophe à venir, réchauffement de la planète, pollution, des régimes militaires totalitaires qui ont la bombe atomique maintenant. On s'en va où avec ça, là? Toute la propagande antichrétienne, l'immoralité, les pandémies. Alors, pas des bonnes nouvelles, ça, hein? Quand même, malgré toutes ces choses terribles-là qui arrivent, il reste quelque chose de l'être humain, dans l'être humain qui ressemble à Dieu. Hein? La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On récolte ce qu'on a semé actuellement, pas juste au niveau de la pollution, mais au niveau de la morale, au niveau du bien-être, au niveau du bonheur. On est en train de récolter ce qu'on a semé. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans chaque être humain, il y a comme un reflet de Dieu. Il y a un petit geste d'amour, un petit geste de compassion. Et il y a plein de gens qui viennent au secours de ceux qui sont sinistrés, de ceux qui sont dans la misère. Et là, on peut dire Amen, on peut dire, ça ressemble à Dieu, ça. Hein? On a été créé à l'image de Dieu. Même si on a mis Dieu dehors, même ceux qui n'ont pas la loi, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ils ont une loi écrite dans leur cœur et leur conscience leur dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc, il y a un frein à la violence, il y a un frein à l'abus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de malheur dans cette humanité. Mais il y a des petits signes de vie. Il n'y a sur Terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. L'Écriture dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, je ne lirai pas tout ça. C'est trop déprimant. Hein? Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Puis à la dernière ligne, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Combien de péchés ça prend pour être séparé de Dieu? Combien de bonnes œuvres, de bonnes choses qu'on peut faire pour réparer les mauvaises. Zéro. Le mal est irréparable. Paul écrit à Timothée, et je pense que Paul pensait qu'il était dans les derniers temps, il y a 2000 ans. Dans les derniers temps, dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, etc., etc. Je vous passe la description. Et ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ça décrit l'humanité dans laquelle on vit à tous les jours. Hein? Et il y a un philosophe allemand après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Gunther Anders. Lui, je vais le lire parce qu'il a écrit ça en 1956. Là. La télévision venait juste d'être inventée, en tout cas d'être... Et regardez ce qu'il annonce comme pronostic. On diffusera massivement via la télévision les divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage, une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, penser, réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme anesthésiant social. Il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, Dieu, Jésus-Christ, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité, de la consommation, devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Il écrit ça en 1956. Est-ce qu'il pourrait le réécrire aujourd'hui? Multiplié par 100. C'est incroyable. Toutes les images qu'on peut avoir, l'information qu'on peut avoir sur l'état de la nature humaine. Alors, Yark, le monde, gagne de pêcheurs, hein? Gagne de pourris, gagne de... Ils s'en vont tous à la dérive, sont déchus. Mais mes amis, là, on est de leur nombre. Hein? Nous sommes de leur nombre. Par nature, nous sommes des enfants de colère. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dehors. Des enfants rebelles. C'est ce que nous étions. C'est ce que j'étais. Et je fais partie de cette humanité qui est déchue. Mais... les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. Amen, là?
Amen.
Enfin? Hein? Nous faisons partie de cette humanité qui est déchue, qui est corrompue. Et puis le Seigneur nous offre une solution à ce monde perdu. Alors, comment être heureux ici ce matin? Là, maintenant. Avec toutes ces nouvelles, puis je suis certain qu'il y a des personnes ici qui pourraient rajouter des choses comme celles-là, qu'ils ont vécues ou que leur pays est en train de vivre. Hein? La planète, là, souffre les douleurs de l'enfantement. Comment être heureux ici ce matin, sur Terre, dans ce monde? En plus de ça, on a un bagage héréditaire. De quoi nous avons hérité? De la nature pécheresse. Hein, c'est un vieux mot, le péché. Ça n'existe plus ça, dans la province de Québec. Le péché. On a hérité de la nature pécheresse. Les scientifiques ont un nouveau mot pour ça. C'est la biogénétique. On peut expliquer le comportement humain par la biologie et la génétique. Mon corps va te pousser à faire des choses, puis mon héritage aussi va en faire ça. Alors, j'ai hérité d'une nature pécheresse et on a hérité aussi de la vaine manière de vivre de nos pères. On a un héritage familial qu'on a reçu de nos familles, de la société, de la culture en général. On a reçu ça, puis on baigne là-dedans. Là, j'ai fini pour les mauvaises nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle qui serait le sujet d'une très grande joie? Ce n'est les anges qui ont apparu au berger. C'est quoi la bonne nouvelle dans ce monde qui est perdu? Un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a un sauveur qui est né et qui a ce monde perdu en a besoin. Il en a besoin plus que jamais. Hein? Dieu a tant aimé Michel. Mettez votre nom. Dieu a tant aimé ton nom. Cet être humain déchu, perverti, rebelle. Ça décrit ma nature, ma vieille nature humaine. Quand Jésus m'a parlé, là, moi j'étais au centre du Québec, là, en plein centre du Québec. Là. Puis là, Jésus a regardé et il a dit, « Wow! Hein? Quel bon gars! » Tellement aimable, tellement fin, tellement... Hein? Il a dit, wow! C'est ça? Quelle réaction que Jésus a eue quand il est venu sur terre, là? C'est quoi la réaction que Jésus a eue face à la misère humaine? Hein? Ému de compassion. Il dit que en hébreu, là, les entrailles ont été remuées physiquement. Là. Il a ressenti un malaise dans ses entrailles face à la misère qui était autour de lui. Et le Sauveur a guéri, le Sauveur a libéré. Mais ce n'est pas le plus grand miracle qu'il a fait. Parce que toutes ces personnes-là qu'il a guéri, là, qu'il a ressuscité, sont morts. C'est quoi le miracle qui va durer pour toute l'éternité? La vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand miracle que tu as vécu sur terre, qu'on peut vivre sur terre, que j'ai vécu sur terre. Ça, c'est le plus grand miracle et le plus grand bonheur qu'on peut vivre sur terre, c'est celui-là. Oui, il y a des malades qui sont guéris, amen, mais ça ne dure pas longtemps, ça. Hein? Mais le pécheur qui est pardonné, Jésus est venu guérir les cœurs brisés, il est venu libérer les captifs, et ces personnes-là qui sont guéries, libérées, ça va durer pour l'éternité. Hein? Jésus a ressenti de l'amour devant ceux qui souffrent, devant ces malheureux-là qui subissent le malheur, qui subissent le mal. Hein? Est-ce que Dieu a des émotions? Il nous a créés à son image. Alors, si nous avons des émotions, Dieu aussi a des émotions. Il n'est pas froid, insensible, tu sais, Il écoute nos prières, là, puis oh, non, c'est comme ça. C'est ton Dieu, ça? Change de Dieu, là, t'as pas le bon, là. Dieu est pas comme ça. Son oreille est penchée sur nous. Puis il n'y a pas un cheveu de ta tête qui tombe sans sa permission. Ça a un sens, le cheveu que tu perds. Dieu est en train de faire de quoi, là? Hein? Qu'est-ce que Jésus a crié quand il est venu sur la terre? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas d'émotion? Il a crié ça sans émotion? Non? Puis la réponse, c'était quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a abandonné son Fils? Savez-vous, c'est quoi la réponse? Pour Michel Houle. Puis mets ton nom. C'est pour ça que Dieu a abandonné son Fils. Et Et bien plus que ça. Bien plus que ça. Ça, c'est juste le début de l'histoire. Non? La fin de l'histoire, ça finit comment? Apocalypse 20. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Les noces de l'agneau. Hein? Il nous a demandé en mariage. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Je ne sais pas pourquoi. Il n'était pas bien tout seul. Ils ont décidé de créer l'être humain, puis de nous amener à vivre dans cette relation intime pour l'éternité avec la Trinité. Nous avons nous a rendus participants de la nature divine. Croyez-vous ça? Ça veut dire quoi, ça, participant de la nature divine? Ça veut dire que c'est le top. On ne sera pas Dieu, là, mais on va vivre dans l'intimité avec Dieu. Une intimité immense, infinie, sans limite. Est-ce que l'amour de Dieu fait défaut? Est-ce que l'amour, Dieu manque d'amour envers nous? Non. Hein? Et regardez, il dit, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés puis a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre réponse à l'amour de Dieu, c'est que nous l'aimons en retour. Parce que Dieu nous a tellement aimés que nous l'aimons en retour. Ça, c'est un principe là, de vie là, essentiel. Si je n'ai pas compris ça, là, j'ai rien compris de la vie chrétienne. Hein? Ressentir que Dieu m'aime. Pas juste savoir, on sait tous que Dieu m'aime. Hein? On peut tous réciter, là, car Dieu a tant aimé Michel. Mais le ressentir... Ressentir que Dieu t'aime. Oh! Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, ça change une vie. Hein? C'est la plus grande source de bonheur sur cette terre. C'est de savoir et de ressentir que Dieu m'aime. Cherche le bonheur ailleurs, là, les jeunes. Les, hein? Il y a plein de choses que le monde nous offre. Mais la chose qui va te satisfaire le plus, c'est de ressentir que Dieu t'aime. Alors, prends du temps cette semaine-là. Assis-toi, arrête de parler, là. Hein? Parle plus, là. Fais juste recevoir l'amour de Dieu. On est heureux à la perfection, ici, maintenant. Wow! Une petite histoire. Un jeune garçon qui s'appelle Ted. Un dernier de classe, il n'aime pas l'école, il est mal habillé, il n'a pas d'expression, il est comme mort dans l'école. Hein? Un petit gars, il n'est pas attachant pantoute, il est renfermé sur lui-même. Il est en cinquième année, puis sa professeure elle a juste 2 ans d'expérience, Mademoiselle Thompson. Puis Mlle Thompson, elle ne l'aimait pas trop parce que il lui faisait sentir qu'elle n'était pas bonne, qu'elle ne performait pas, qu'elle était incompétente. Puis là, quand elle marquait ses fautes, elle sortait son crayon rouge, puis elle soulignait toutes ses fautes dans ses devoirs. Et il était rejeté, on se moquait de lui dans la classe. Et certainement qu'elle a échoué sa 5e année. Mais elle aurait dû faire attention parce que les professeurs des autres années avaient écrit ceci dans les notes. Hein? Ted a beaucoup d'aptitudes, mais une situation familiale difficile. Ça, c'est en première année. 2e année, Ted pourrait faire mieux Sa mère est gravement malade, pas d'aide à la maison. Troisième année, Ted est un bon garçon, mais trop sérieux pour son âge. Il apprend lentement. Sa mère est décédée durant l'année. Ted est très lent, mais a un bon comportement. Son père n'a aucun intérêt pour son fils. Noël arrive. Les enfants amènent des cadeaux pour le professeur. Et puis, Ted, il dépose son vieux sac mal tapé, là, mal enveloppé, papier brun. Il dépose ça parmi les cadeaux. Et Mlle Thompson, elle ouvre les cadeaux, puis elle arrive à celui de Ted. Les enfants sont tout autour de la table. Et puis, elle ouvre le cadeau de Ted, puis elle sort un bracelet. Puis le bracelet, il manquait la moitié des perles. Elle met le bracelet autour de son poignet. Puis, oh, il y avait d'autres choses. Il y avait une bouteille de parfum. Elle rouvre la bouteille de parfum, puis elle se met du parfum. Puis elle sent le parfum. Puis là, toutes les filles voulaient avoir un petite goutte de parfum sur le poignet. Pio, hey, mon Ted, là. Après la classe, Ted va voir sa professeure, puis il dit, Mlle Thompson, vous sentez comme ma mère. Puis son bracelet, là, ça vous va très, très bien. Hein? Je suis content que vous aimiez mon cadeau. Et puis il part en vitesse. Quitte la classe. Mlle Thompson, elle tombe à genoux. Elle demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Comment j'ai maltraité ce petit gars-là. Hein? Et à partir de ce moment-là, son attitude a complètement changé. Les enfants avaient un nouveau prof à partir du lendemain. Elle a décidé d'aimer chacun d'eux, chacun des enfants, et Ted en particulier. Pas fini. Ted restait avec elle après la classe. Elle le gardait après la classe. Lui faisait ses devoirs. Elle préparait ses leçons. Fait qu'ils travaillaient comme ensemble. Là, ses notes sont mises à grimper. Hein? Et puis, fini l'année, plus que la moyenne de la classe. Il a fini sa cinquième année. C'est pas fini. Il y a 7 ans qui passent. 7 ans plus tard, Mademoiselle Thompson, elle reçoit une lettre. Elle reçoit une lettre de Ted. Chère Mademoiselle Thompson, je viens d'apprendre que je vais graduer le 2e de ma classe. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Avec amour, Ted. Il se passe un autre 4 ans plus tard. Chère Mademoiselle Thompson, je voulais que vous soyez la première à savoir, je vais graduer le 1er de ma classe. Le collège n'a pas été facile, mais j'ai aimé ça. Avec amour, Ted. 4 ans plus tard, un autre 4 ans. Chère Mademoiselle Thompson, aujourd'hui, je suis médecin, le docteur Théodore Stallard. Qu'en pensez-vous? Je voulais que vous soyez la première à savoir. Je me marie le mois prochain, le 27. J'aimerais que vous veniez à mon mariage et que vous soyez là où ma mère se serait assise si elle vivait encore. Vous êtes ma seule famille qui me reste. Papa est décédé l'an dernier. Avec amour, Ted. Hein? Est-ce que Mlle Thompson a assisté au mariage? Pour être sûr. Pour être sûr. Hein? Ah, peut-être. Et le chercheur. Mais bon. Ouais, elle s'est assise à la place où sa mère se serait assise. Qu'est-ce qui a changé la vie de ces deux personnes-là? Un petit peu d'attention, un petit geste d'attention. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui a produit tant d'effets dans la vie de Ted? Un petit peu d'amour de son professeur, un petit peu d'attention, Il a donné de la valeur. Il a donné de la valeur au petit gars qui était performé dans rien. Là. Pas de famille, pas de résultats scolaires. Un petit peu d'amour. Et le principe, c'est celui-ci. Si un petit peu d'amour d'un être humain, petit geste comme ça, peut changer la vie d'un autre être humain, à combien plus forte raison l'amour infini, sans limite, de Dieu pour un pécheur comme moi va changer ma vie. Hein? Un petit geste d'amour. C'est quoi le geste d'amour que Dieu nous a donné? Il a donné son fils. Jésus a donné sa vie, lui a donné son fils. Ceux que vous avez des enfants, là, quand votre enfant se fait mal, là, c'est qui souffre le plus? Là? Hein? C'est le Père. Ce n'est pas juste Jésus qui a souffert à la croix. Là. La Trinité a été brisée en deux. Et il a souffert l'équivalent de l'enfer pour l'éternité. Dieu a souffert ça pour nous. Alors, quel effet ça fait de savoir et de ressentir que Dieu m'aime à l'infini? Ça devrait être quoi l'effet? C'est quoi l'effet? Vous tressaillez d'une allégresse indicible qu'on ne peut pas exprimer. Il n'y a pas de mots pour ça. Et glorieuse. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Hein? Et il ajoute, mes frères, réjouissez-vous. Considérez comme un sujet de joie complète lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves. Entendez-vous? Hein? On n'est pas en Ukraine, on n'est pas dans les pays qui souffrent. Mais il y a des tragédies qui se passent ici aussi, dans nos vies. Comment qu'on réagit à ça? Il dit, regardez ça comme un sujet de joie complète. Impossible. Humainement, là, humainement impossible de passer à travers ce que tu traverses puis avoir une joie surhumaine, surnaturelle. Hein? Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, estimez-vous heureux, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie. Les épreuves que tu vis, là, c'est une occasion d'accéder à la joie parfaite. Change ta vue. Change ta perspective. Hein? Changeons notre perspective. On est... notre bonheur, il est là. Hmm? Pas difficile d'être heureux quand tout va bien. Mais quelle sorte de bonheur que c'est? Hein? As-tu des gens riches, là, puis célèbres? Ils sont heureux? C'est comme le philosophe disait tantôt, là, c'est éphémère. Là, hein? C'est éphémère. Et c'est difficile d'être heureux quand ça va mal. Ça prend un acte de foi surhumain, surnaturel. On fait un miracle. Lorsqu'on passe à travers une épreuve. Puis on peut dire, Seigneur, je te fais confiance, je suis heureux. Yoel, un garçon de 10 ans en Turquie, il est au pied de la tombe de son père et de sa mère qui viennent de mourir. Écoutez bien ceci. Yoel de 10 ans. Petit garçon de 10 ans, là. Et sur Internet, vous pouvez voir la photo, puis vous l'entendez prier devant la tombe de ses parents. Il dit, « Merci, Seigneur, pour avoir sorti mes parents de ce monde méchant, de ce monde qui empire chaque jour vers ton paradis. Ils sont en sécurité aujourd'hui. Ils sont dans un meilleur endroit. Merci Seigneur pour cela, je ne peux pas te remercier assez. Nous allons souffrir, nous allons pleurer, mais bientôt nous nous réjouirons. Ils seront heureux et joyeux que nous soyons en vie. Je te remercie, Père Céleste, car un jour je les reverrai. Tu es un bon Dieu et je sais à quel point tu les aimes. C'est pourquoi tu les as pris avec toi. Tu les as pris pour qu'ils ne souffrent plus. Nous t'aimons, Père Céleste. Je ne peux pas te remercier assez et je sais que c'est par ta miséricorde qu'ils ont été enlevés. Je te remercie, je glorifie ton nom. Amen. Est-ce qu'il y a un savant sur terre? Est-ce qu'il y a un génie qui peut exprimer une vérité comme cela? Un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'être humain pécheur et Yoël? La foi. Hein? C'est la foi. Alors, à tous les jours, je termine avec ça, là, on peut vivre ce miracle-là, peu importe les circonstances. Seigneur, j'ai confiance, même si je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi les obstacles, les grands obstacles au bonheur qu'on peut avoir maintenant? Deux obstacles, le passé et le futur. Ça, c'est deux obstacles au bonheur. Je peux être hanté par mon passé, par le mal que j'ai fait. Je peux être tourmenté, je peux me sentir coupable, avoir honte, avoir des remords sans arrêt pour le mal que j'ai fait. Mais je peux être hanté aussi par le mal qu'on m'a fait. Hein? Rempli de jugement, rempli de haine, de mépris, d'amertume, de douleur. Comment tu peux être heureux aujourd'hui si ton passé te rattrape comme ça? Et comment on règle le passé? Comment on règle l'offense? Le pardon. Le pardon. Je reçois le pardon et je pardonne comme j'ai été pardonné. Ça libère le passé. Puis quand le diable revient à la porte frappée, là, tu dis non. Ça a été réglé une fois pour toutes. Je suis pardonné, lavé, purifié. Hein? Et l'autre obstacle, c'est quoi? Le lendemain. Hein? Le futur. Je peux être hanté par l'inquiétude, la peur. Le mal qui pourrait arriver. Hein? Y en a-tu du mal qui pourrait nous arriver? Eh boy! Et on règle ça comment? Au lieu d'être emporté par la peur, par l'anxiété, par l'angoisse, laisser cette inquiétude-là, hein, comme dans mon cerveau, là, faire tout son dommage. Non. Seigneur, oui, c'est une situation difficile. Oui, ça fait mal. Oui, j'ai peur. Hein? Soyons vrais, là. Mais Seigneur, non, je ne me laisserai pas emporter par ces inquiétudes-là. Non. Je te fais connaître mes besoins avec des prières, des supplications, puis des actions de grâce. Merci, Seigneur, pour ça, surhumain-là. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mon cœur et mes pensées en Jésus aujourd'hui et maintenant. Alors, il y a deux grands obstacles. Il y en a d'autres. Il y a deux grands obstacles. Il y a le passé qui doit être réglé, puis il y a le futur, l'avenir. Le lendemain, prendre soin de lui-même. Je ne vais pas me tracasser outre mesure par les choses qui pourraient peut-être arriver. Hein? Et qu'est-ce qu'on va récolter? La paix, la joie, le bonheur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette paix, cette joie, ce bonheur? On la garde pour soi? Non, non. On devient contagieux et ça se répand. Notre monde a-t-il besoin d'une bonne nouvelle? Est-ce que notre monde est malheureux? Y a-t-il besoin? Est-ce que notre monde est perdu? Est-ce qu'ils ont besoin d'un sauveur? Comment? Hein? On va les atteindre. Puis tous ces malheurs-là, ils produisent que les gens vont se tourner vers le Seigneur. Parce que les moyens humains, ils ne sont pas à la hauteur. On ne réglera pas le cas de la planète, hein, de la méchanceté et de la pollution, puis tout le reste. On s'en va vers la fin. Et la bonne nouvelle, hein, Jésus sauve. Une parabole. Jésus a une parabole, puis il dit « Heureux parce que vos yeux voient, puis vos oreilles entendent. » Qu'est-ce qu'on voit, puis qu'on entend, puis que les autres n'entendent pas et ne voient pas dans ce monde-là perdu? Qu'est-ce que nous voyons que eux ne voient pas? Hein? Question pour les petits groupes. On va faire des petits groupes, là. Et la question, c'est qu'est-ce qui me rend vraiment heureux et qui me fait goûter la vraie joie ici, maintenant, personnellement? Puis, voici un exemple concret où j'ai pu ou pourrais transmettre cette joie à quelqu'un d'autre dans ce monde malheureux. On va juste... je vais vous distribuer une traduction que j'ai faite du Notre Père, accompagnée de Philippiens 4, 6 et 7. Je ne pensais pas qu'on serait si nombreux, mais peut-être un par famille ou un par couple. Et puis, c'est une prière qu'on va pouvoir faire. Je vais la distribuer après. Mais j'aimerais ça la faire un petit peu avec vous. S'il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de régler le passé ou qui ont besoin de régler le futur, faisons-le maintenant pour que vous soyez heureux. Hein? Pour que vous goûtiez quelques secondes, quelques minutes à l'amour de Dieu. Alors, allons dans la prière. Oui, Seigneur, j'ai honte. Je me sens coupable de telle chose, telle parole que j'ai dite là. Ça fait vraiment du tort. Ça fait vraiment du mal à une autre personne. Et Seigneur Dieu, je les confesse devant toi maintenant. Je les apporte devant toi. Et je te demande pardon du fond du cœur. Pardon, Seigneur, pour ce geste que j'ai posé ou que je n'ai pas posé. Pardon, Seigneur, pour ces paroles méchantes. Tu as mis ça devant le Seigneur, là. Mets-les sur les épaules de Jésus. Qu'il prend ton péché sur lui. Il va payer à ta place pour ces mauvaises choses que tu as dites, que tu as faites. Tu l'as fait? Tu as déposé ton fardeau, ton péché sur les épaules de Jésus. Et regarde-le maintenant. Qu'est-ce qu'il te dit? Je te pardonne entièrement. Tu es lavé et purifié de toutes ces souillures. Tu es blanc comme la neige. Reçois mon pardon. Reçois ma joie, ma paix, maintenant. Et l'amour, tout l'amour que j'ai pour toi, reçois-le maintenant. Il n'y a plus rien qui nous sépare. Seigneur, je t'apporte cette personne qui m'a fait du mal. Seigneur, j'ai mal. Et Seigneur, je suis en colère. Ça fait des années peut-être que j'ai ça sur le cœur, que je l'haïs. J'ai du mépris, de l'amertume, un esprit de jugement. Mais aujourd'hui, Seigneur, je la prends par les épaules, là, puis je la remets, cette personne, dans tes mains. C'est toi qui es son juge maintenant, ce n'est plus moi. Je lui pardonne. Du fond du cœur, j'arrache la racine d'amertume du fond de mon cœur. Entre, Seigneur Jésus. Je reçois ta paix, ta joie. Parce que je suis libéré, c'est moi le premier qui est libéré de toute cette amertume, de cette prison dans laquelle je suis enfermé depuis que c'est arrivé. Seigneur, je suis hanté par l'inquiétude. Seigneur, j'ai tellement peur, je vis dans l'inquiétude de ce qui pourrait arriver, tout le malheur qui pourrait m'arriver. Seigneur, je te demande pardon parce que je me laisse emporter par la peur, l'anxiété, l'angoisse, etc., etc. Au lieu de te faire confiance. Alors Seigneur, je choisis de te faire confiance maintenant. Je remets cette inquiétude-là en particulier dans tes bras, dans tes mains, tes puissantes mains. Et Seigneur, tu vas me secourir autant voulu. Seigneur, tu vas être là. C'est pourquoi ce matin, je veux juste m'arrêter et goûter combien tu es bon. Combien tu prends soin de moi. Maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour du bonheur. Et si je ne suis pas heureux aujourd'hui, je ne le serai pas demain. Seigneur, donne-moi de tressaillir d'allégresse pour cette paix, cette joie qui dépasse l'humain. Qui est surnaturel. Amen.